Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Distancée dans les sondages, Marine Le Pen met de côté son étiquette Front National. Elle est désormais en congé de la présidence de son parti. Une stratégie que nous expliquera Christine Moncla. Emmanuel Macron, lui, est revenu sur le terrain aujourd'hui avec une visite à l'hôpital de Garches qui a tourné au fiasco médiatique. Les journalistes sont restés à la porte de l'établissement, nous dira Cyril Graziani. À gauche, Jean-Luc Mélenchon consulte ses militants avant d'arrêter une position pour le deuxième tour. Quant à la CGT, elle veut faire barrage au FN, mais elle refuse d'appeler à voter Macron. Un invité dans ce journal pour évoquer la campagne présidentielle sur les réseaux sociaux, Nicolas Van Der Beest, animateur du site Reputatio Lab et chroniqueur sur France Culture. C'est une évolution significative dans la campagne de Marine Le Pen. La candidate du Front National s'est donc mise en congé de la présidence du FN. Elle veut se placer au-dessus des partis pour s'adresser à l'ensemble des Français. Marine Le Pen, qu'aucun sondage ne donne en situation de l'emporter face à Emmanuel Macron le 7 mai prochain. Elle obtient aujourd'hui au mieux 40% selon certains sondages. Christine Moncla, l'abandon de l'étiquette FN est donc un élément important de la stratégie de Marine Le Pen pour élargir son électorat.
Oui, effectivement, car Marine Le Pen ne veut plus être appelée la candidate frontiste ou la présidente du FN, mais tout simplement la candidate à la présidence de la République, sous-entendu celle de tous les Français. C'est la suite logique de l'opération dédiabolisation, bien utile au moment où elle cherche à séduire les électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon. Alors son retrait provisoire de la tête de son parti est donc plus cosmétique que significatif. Depuis le début de la campagne, tout se passe au QG à Paris, le siège de Nanterre est déserté, les réunions du comité stratégique ont remplacé les réunions politiques internes, ce qui était aussi, au passage, une manière d'empêcher Jean-Marie Le Pen d'y participer. Alors, conformément au statut du Front National, Marine Le Pen laisse donc sa place par intérim à son premier vice-président, Jean-François Jalck. Cet ancien journaliste à National Hebdo, aujourd'hui eurodéputé, reste peu connu du grand public, mais il est en revanche bien connu de la justice, puisque son nom est cité dans deux affaires. L'enquête sur le financement des campagnes de 2012, il a d'ailleurs été le premier haut cadre du parti à être mis en examen pour escroquerie et abus de confiance. Et puis Jean-François Jalck est aussi soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen.
Christine Moncla, merci. Marine Le Pen qui a retrouvé ce matin Emmanuel Macron à Paris pour l'hommage national aux policiers tués par un djihadiste sur les Champs-Élysées. Auparavant, elle était à Rungis alors que son rival, lui, est resté très discret depuis dimanche soir et son dîner controversé à la Rotonde dans le quartier de Montparnasse à Paris. Emmanuel Macron est donc reparti sur le terrain. Aujourd'hui, il était à l'hôpital de Garches, près de Paris, pour un déplacement consacré à la prise en charge du handicap. Cyril Graziani, vous avez suivi cette visite qui visiblement avait été très mal préparée.
Oui, et à ce niveau, ce n'est plus du retard à l'allumage. Emmanuel Macron, qui n'a plus été au contact des Français depuis dimanche soir. Pas de son, peu d'images, même le compte Twitter du candidat est au ralenti. Alors une visite dans un hôpital, ça pouvait donner de belles images, être au chevet des malades, au chevet des Français qui souffrent. Mais l'équipe du candidat a juste oublié de prévenir l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, pour demander une autorisation pour la presse. Du coup, pas de journaliste. Pour seule illustration, un membre de l'équipe En Marche qui a filmé cette visite avec son téléphone. Sur le fond, difficile aussi de comprendre la raison de son déplacement. Si, pour un membre de son équipe, le candidat vient affirmer qu'il est sensible à la prise en charge de la clientèle des handicapés. La clientèle des handicapés, lui demande-t-on, il se rompt, pardon, des patients. La campagne d'Emmanuel Macron patine. En plus, s'ajoute l'avertissement du président de la République qui lui est clairement destiné, à savoir qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche. Le Front National au second tour, un FN qui lui bat la campagne. Le candidat d'En Marche sera d'ailleurs sur les terres frontistes demain dans les Hauts-de-France. Trois jours après sa qualification, mieux vaut tard que jamais, diront certains.
Cyril Graziani avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Merci. À gauche maintenant, deux jours après son élimination du premier tour, Jean-Luc Mélenchon ne s'est toujours pas exprimé. Dimanche, il avait expliqué qu'il consulterait les 450 000 militants de la France insoumise pour arrêter une position en vue du deuxième tour. La consultation sur Internet a commencé aujourd'hui. Les militants ont le choix entre trois options, le vote nul ou blanc, l'abstention ou bien le vote Macron. Le vote Macron, c'est cette dernière option qu'a retenu le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, qui ne comprend pas le silence de Jean-Luc Mélenchon.
La consigne est très claire. Nous pensons qu'il faut battre Marine Le Pen. Je crois qu'il ne faut pas banaliser le danger de son élection. Et nous ne voulons pas laisser tous les immenses pouvoirs que confère la Ve République au président dans les mains de l'extrême droite. Même si, effectivement, nous ne partageons en rien le projet d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, lui-même est assez irresponsable, devant le danger qui menace, d'essayer de transformer la consigne que nous donnons en acte d'adhésion à sa politique. Nous avons combattu, quand il était ministre, la politique d'Emmanuel Macron et ses choix, et nous le ferons demain à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, nous pensons que les forces qui ont permis le résultat de Jean-Luc Mélenchon et d'autres, si elles sont prêtes à se joindre à nous à gauche, doivent aller à la bataille ensemble pour gagner le maximum de circonscriptions.
Le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, répondait à Laurence Perron. Alors comment faire barrage au Front National ? Cette question hante aussi les syndicats. Certains appellent explicitement à voter Macron, comme la CFDT, la CFTC solidaire ou FSU. En revanche, Force ouvrière ne donne aucune consigne de vote, une position de principe chez FO avant une élection, quelle qu'elle soit. Et du côté de la CGT, on se garde bien d'appeler à voter Macron, tout en précisant que pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Raphaël Ebenstein.
Aucune ambiguïté, jure un membre de la direction de la CGT pour qui le communiqué diffusé aujourd'hui ne renvoie pas dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'empêche, ce texte d'une cinquantaine de lignes est loin de se résumer à un simple appel à faire barrage à l'extrême droite. La CGT voit en effet dans la présence du Front National au second tour de la présidentielle les résultats des politiques libérales, des lois régressives et des remises en cause des droits, fin de citation, avant d'évoquer incidemment de ligne plus bas la fameuse loi Macron. Bref, aucun soutien explicite au candidat d'En Marche. Plutôt une dénonciation, bonne et due forme, du Front National, accusé d'utiliser les peurs, la xénophobie, le sexisme, l'homophobie, ce qui ne résoudra pas les inégalités, le chômage et les bas salaires, dixit le communiqué. En conclusion, un simple appel à la mobilisation le 1er mai, sans aucune revendication liée au second tour de la présidentielle.
Raphaël Ebenstein, merci. On va maintenant évoquer la question des réseaux sociaux dans cette campagne présidentielle. Facebook et surtout Twitter sont au cœur de la bataille numérique qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. On remarquera d'ailleurs que la mobilisation contre la candidate du FN est pour le moment assez timide. Invité de ce journal, Nicolas Van Der Beest, animateur du site Reputatio Lab. Bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes également chroniqueur sur France Culture. Nicolas Van Der Beest, un mot d'ordre a émergé dimanche soir sur Twitter. Sans moi le 7 mai, façon de dire qu'il n'est pas question d'aller voter pour le deuxième tour. Comment vous expliquez le succès de ce hashtag ?
En fait, pour comprendre le succès du hashtag, il faut comprendre la logique du réseau Twitter. C'est-à-dire que Twitter propose à ses utilisateurs ce qu'on appelle des tendances émergentes. Ce ne sont pas les sujets les plus discutés sur Twitter. Ce sont les sujets qui sont les plus émergents. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre un volume de tweets à une situation A et on va la comparer en termes de volume par rapport à une situation antérieure B. Et en fait, là-dedans, la plupart des conversations ne parlaient que des présidentielles et ils utilisaient pour la plupart des hashtags qui avaient déjà été beaucoup utilisés auparavant, présidentielle 2017, je vote et autres, ce qui fait que ça a laissé une grosse porte ouverte à des hashtags plus ou moins nouveaux de se faire une place dans les tendances émergentes. Et c'est ce qu'a fait ce hashtag avec brio, mais sans pour autant être un gros phénomène, puisqu'on tourne autour de 45 000 tweets autour de la période de deux jours. Ça reste encore un score plus ou moins convenable. Si on doit faire un ordre de comparaison, le hashtag « Je vote » a quand même rassemblé 410 000 personnes.
Vous avez pu identifier l'origine de ce hashtag « Sans moi le 7 mai » qui appelle finalement les gens à ne pas voter, à ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron le 7 mai prochain ?
Oui, en fait, dès les moments des résultats publiés, il y a une personne qui a exprimé son mécontentement et qui a dit qu'elle ne voterait pas. Elle a petit à petit été retweetée et puis des gens sont rentrés et ont également posté le message. Il n'y a pas eu d'opération de personnes voulant rendre ce très dystopique, rendre ce hashtag en tendance émergente. C'est essentiellement une organisation sous-jacente et qui a été propagée plus ou moins par des militants de Mélenchon et de Fillon, mais dans une moindre mesure, surtout les électeurs de Mélenchon.
Ça veut dire que sur Twitter, quelque part, les électeurs de Mélenchon et de Fillon se sont retrouvés pour rappeler à l'abstention le 7 mai prochain.
Bon, ils ont juste utilisé le même hashtag, ils ne se sont pas réellement retrouvés. La preuve, c'est qu'on peut rapidement et facilement identifier les différentes communautés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trop d'interactions entre eux sur le hashtag. Donc oui, ils ont plus ou moins utilisé le même hashtag, et je vais même le dire, c'était plutôt par opportunisme du côté des comptes des militants de Fillon que réellement pour profiter de la chose ou pour faire une organisation ensemble.
C'est quelque chose de spontané, il ne faut pas y voir là une organisation politique qui serait à la manœuvre.
Non, pas du tout. Et il y a d'ailleurs un indicateur qui est généralement très bon pour évaluer s'il y a une organisation ou si on a essayé de booster numériquement les urnes de Twitter, c'est qu'on regarde le nombre de tweets, 45 000, et on regarde le nombre d'utilisateurs, qui est presque à 21 000. Et donc, en fait, ça représente 2 tweets pour un utilisateur. Ça reste encore un taux très, très bas. Et donc, c'est plutôt un indice qu'il n'y a pas du tout eu de volonté de rendre la tendance émergente massive.
Nicolas Van Der Beest, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de médias de masse à propos des réseaux sociaux, sachant que tout le monde n'est pas sur Facebook ou Twitter ?
Dans la mesure où vous avez plus de 4 500 tweets, et on est même au-delà, qui ont été envoyés rien que durant les 24 heures des résultats, on peut quand même parler de masse, surtout quand vous avez plus de 450 000 utilisateurs qui s'expriment. On peut imaginer qu'il y a au moins le double, voire le triple, qui sont spectateurs de la chose. De la même manière, il ne faudrait pas considérer Twitter comme uniquement Twitter, c'est-à-dire le site. Twitter, dans sa production, en fait, est développé ailleurs, ne serait-ce que par des articles de presse qui mentionnent les tweets ou dans des discussions en dehors. Et donc, en fait, c'est une grosse caisse de résonance, d'autant plus que Twitter a généralement des utilisateurs qui sont plutôt dans les catégories socio-professionnelles supérieures, que l'on considère avant comme des leaders d'opinion. Et donc, oui, c'est un média de masse, et oui, il va plus loin que son simple panel utilisateur.
Et ça n'est pas forcément le cas pour Facebook. Là, pour le coup, il y a une distinction à opérer entre Twitter et Facebook.
C'est-à-dire que Facebook, c'est bien un média de masse. Il y a beaucoup d'activités autour, mais il n'y a pas d'activités ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'agora publique où toutes les opinions se croiseraient et où, finalement, on pourrait évaluer chaque camp. On est chacun dans sa propre logique de flux d'actualité, on est chacun avec ses propres amis, et donc on est moins dans un vivre ensemble, et surtout on peut moins évaluer les discussions qui sont à l'œuvre, et donc c'est beaucoup moins intéressant à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les journalistes.
Et puis en plus, Facebook semble moins repris que Twitter sur les sites d'information traditionnels.
Oui, parce qu'on n'a pas accès en fait à la majorité des publications qui sont faites. Donc de temps en temps, on a l'écho d'un post Facebook qui fonctionne particulièrement, et de temps en temps, ils sont repris. Mais si on doit comparer avec Twitter, on ne joue pas dans la même ligue.
Nicolas Van Der Beest du site Reputatio Lab, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'actualité à l'étranger, Ivanka Trump était à Berlin aujourd'hui. Il s'agissait du premier déplacement officiel de la fille du président américain. Celle qui joue un rôle de conseillère à la Maison-Blanche est venue en Allemagne participer à un sommet sur la place des femmes en entreprise. Lors d'un débat avec notamment Angela Merkel, Ivanka Trump a tenté de défendre son père Donald. Cyril Sauvageau nous appelle de Berlin.
Elle se savait attendue et observée pour sa première sortie en Europe. Ivanka Trump a longuement préparé, paraît-il, son intervention à Berlin, prévue depuis sa rencontre avec Angela Merkel à la Maison-Blanche. Invitée à débattre aux côtés de la chancelière et de la patronne du FMI, Christine Lagarde, la fille du président américain a d'abord précisé qu'elle était à Berlin pour représenter son père et les États-Unis, mais pas ses propres intérêts d'entrepreneuse. Dans ce rôle inédit de first daughter, elle s'est donc efforcée de soigner l'image de Donald Trump, un homme qui, dit-elle, accorde beaucoup d'importance au potentiel des femmes, bref, tout l'inverse de sa réputation de macho, un père attentionné qui l'a toujours encouragé et permis de s'épanouir en tant que femme. Pour Angela Merkel, cette visite d'Ivanka Trump en marge du G20 est un moyen de tisser discrètement des liens diplomatiques avec la Maison-Blanche et tenter d'effacer la très mauvaise impression laissée par son premier déplacement à Washington.
Cyril Sauvageau à Berlin. La Turquie a mené aujourd'hui des raids aériens contre des positions kurdes à la fois en Syrie et en Irak. Une vingtaine de combattants ont été tués. Le président turc Erdogan accuse les milices kurdes d'être des groupes terroristes. Le problème, c'est que ces milices jouent un rôle déterminant dans la bataille de Raqqa. La coalition kurdo-arabe soutenue par les États-Unis est aujourd'hui la mieux placée pour reprendre la ville syrienne à l'État islamique. Retour en France avec la météo demain, refroidissement généralisé et retour des gelées matinales sur la moitié nord. Le ciel sera couvert et pluvieux sur la moitié est, il neigera en montagne. Sur le reste du pays, le temps sera variable et les giboulées fréquentes. Température maximale 9 à 14 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 degrés sur les régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.